quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerait on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur jugé la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de lèpre toute neuve. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? Sans semer du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi, comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc cheminerai demain? Au mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs. Car moi je veux de l'espace, où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. À cette heure n'est pas plus grande ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire 89,4 MHz, vous êtes dans l'émission Les Mangeterres et nous sommes le lundi 7 août 2023. Et bien oui, les émissions continuent en direct sur Radio Libertaire, même l'été. Voilà, il s'agissait de rattraper notamment pour les Mangeterres celle du 1er mai qui, pour la bonne cause, l'organisation de la manifestation n'avait pas eu lieu. Donc on est bien présent en ce mois d'août et on commence tout de suite, comme d'habitude, par un tour d'horizon un peu généraliste, éclectique, avant d'aborder des articles thématiques. En lien avec, bien sûr, l'environnement et l'écologie et le social, bien sûr, de manière indissociable. Ces deux sujets doivent être traités et c'est ce que nous essayons de faire à partir d'une revue de presse dans cette émission Les Mangeterres, donc une émission mensuelle, premier lundi, 18h. Alors tout de suite, avec Agir pour l'environnement... Dans un communiqué du 28 juillet, ce qui nous propose de refuser l'installation de milliers d'écrans numériques publicitaires dans les petites villes. et qui nous rappelle donc dans ce communiqué que la coupure estivale est généralement la période propice aux mauvais coups. Hausse en tout genre et consultations bidons sont ainsi programmées par le gouvernement afin de faire le moins de vagues possible. Le gouvernement parie ainsi sur l'indolence des vacanciers pour lancer une consultation visant à autoriser l'installation de milliers d'écrans publicitaires numériques dans les petites villes de moins de 10 000 habitants. Et cette consultation a lieu en ce moment, donc du 17 juillet au 10 août 2023. Résultat, à la date de publication, donc 10 jours après le lancement, moins d'une trentaine de contributions seulement. Dans le plus parfait style technocratique, cette consultation se propose de supprimer le dernier alinéa de l'article R581-42 du Code de l'environnement. La notice accompagnant la consultation est légèrement plus explicite en indiquant que le projet de décret corrige une erreur rédactionnelle ayant conduit à l'interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations. Erreur rédactionnelle, entre guillemets, datant du 30 janvier 2012, qui nous a évité, nous dit Agir pour l'environnement, de transformer nos petites villes en terrain de jeu pour publicitaires impénitents. D'ici au 10 août, il est possible de contribuer à cette consultation et peser sur la décision à venir. Le gouvernement comptait sur les vacances pour passer en force. Profitons de ce moment pour être des milliers à refuser ce projet de décret d'autant plus scandaleux qu'il intervient en parallèle d'appels répétés à la sobriété. Et bien pour ça, il est proposé un texte qui dit « Par la présente, je m'oppose à la modification de l'article dont on a parlé. Comme vous l'évoquez dans la notice de présentation de cette consultation, cette modification vise à corriger une erreur rédactionnelle ayant conduit à l'interdiction systématique de publicité sur le mobilier urbain dans les petites agglomérations. Cette erreur rédactionnelle n'en est pas une, puisque le décret publié au journal officiel du 30 janvier 2012 indiquait que le mobilier urbain ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglos de moins de 10 000 habitants. En supprimant cet alinéa, le projet de décret que vous soumettez à consultation offre la possibilité aux publicitaires de transformer nos petites villes en cloaques urbains, tout en gaspillant une énergie qu'on me demande pourtant d'économiser. Je vous demande donc de renoncer à cette modification réglementaire et maintenir en l'état la rédaction initiale de l'article R581-42 du Code de l'environnement. » Voilà, alors des petites communes de moins de 10 000 habitants, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas Paris et Petite Couronne, il y en a un peu plus dans la Grande Couronne parisienne. Et puis, bien, il y a toujours possibilité d'intervenir, effectivement. En tout cas, le sujet me paraissait important puisque la publicité, c'est vraiment le cheval de Troie du consumérisme, bien sûr. C'est vraiment la porte d'entrée et on le voit en plus avec un discours qui parle de dématérialisation, alors qu'en fait, il s'agit de parler de numérisation puisque derrière la dématérialisation, on semble entendre le mot immatériel, mais on sait très bien que via tous ces réseaux et toute cette électronique a un impact élevé sur l'environnement. On le dit souvent hein, en matière de métaux rares, de consommation d'énergie pour faire tourner les serveurs ça donc ces consommations c'est quelque chose qui est documenté. Je sais pas si on l'a dans les articles, mais ça me vient en tête. On a évoqué ce mois-ci dans une action alibi du gouvernement la suppression des tickets de caisse contre notamment certains polluants contenus sur les tickets de caisse, alors que par ailleurs, en matière d'agriculture, pesticides continuent pour un certain nombre d'être autorisés. Donc on voit que c'est vraiment se moquer du monde. Et également en renvoyant à l'idée que par une gestion numérique on pourrait économiser du bois et du papier. Évidemment on a toute cette consommation cachée à commencer par les lieux d'extraction des terres rares et des matériaux nécessaires pour l'électronique qui sont bien évidemment cachés à nos yeux et dans d'autres pays, voilà. Et dont seules les populations pauvres subissent les conséquences. Donc il me semblait intéressant de revenir sur cet article sur la publicité. Et bien, deuxième article dans cette introduction un peu éclectique, avec Reporter, donc du 18 juillet. Le site Reporter qui nous revient sur le fait que malgré la loi, l'Île-de-France va continuer de bétonner, puisque, contrairement aux autres régions, l'Île-de-France... Alors, ne prévoit pas de réduire sa consommation d'espace naturel de 50%. Ce choix est qualifié d'insensé par Louama Mestro de France Nature Environnement Île-de-France. La région parisienne, donc, ne prévoit pas de réduire sa consommation d'espace naturel, ne prévoit de la réduire, pardon, que de 20% sur la prochaine décennie par rapport à la précédente, contre 50% dans les autres régions. Comme l'impose la loi zéro artificialisation nette, le Conseil régional d'Île-de-France a en effet adopté le 12 juillet son projet de schéma directeur de la région d'Île-de-France environnementale, donc le SDRIF-E. Ce document, qui cadre les projets d'aménagement d'ici à 2040 et qui sera décliné dans les documents d'urbanisme des échelons inférieurs à la région, donc c'est-à-dire toutes les collectivités, les territoires communaux et intercommunaux, eh bien, ce document sera soumis à enquête publique à partir de janvier 2024. Cependant, il manque fortement d'ambition selon les associations environnementales et les élus de l'opposition. Et c'est ce qu'explique donc à Reporter Louama Mestro, chargée de mission aménagement du territoire à France Nature Environnement Île-de-France. Alors, Reporter pose la question: pourquoi estimez-vous que la région Île-de-France n'est pas assez ambitieuse dans ses objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation? Réponse de Louama Mestro: la protection des terres naturelles, agricoles et forestières doit être un combat central pour préserver la biodiversité et la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi nous prenons la mise en place du zéro artificialisation brute, ZAB, le ZAB en Île-de-France. Autrement dit, aller plus loin que la loi climat et l'objectif zéro artificialisation nette d'ici à 2050, qui permettra de continuer à artificialiser s'il y a compensation. Donc, selon le principe de la ZAN et de la loi qui est critiquée, eh bien, tant qu'on compense ailleurs, on peut artificialiser sur place. À défaut de réussir à imposer cet objectif ambitieux, nous souhaitons à minima que la région se fixe l'objectif de réduction du rythme de sa consommation foncière de 50% sur la prochaine décennie par rapport à la précédente, et non pas seulement 20% comme c'est prévu dans le texte voté le 12 juillet. Question de Reporter: pourquoi la région ne se plie-t-elle pas à la loi ZAN en zéro artificialisation nette? Depuis la loi NOTRe de 2015, donc réponse, toutes les régions doivent se doter d'un document d'urbanisme et d'aménagement. La plupart d'entre elles sont désormais encadrées par des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité de territoire, donc les SRADET. Mais la Corse, l'Île-de-France et les territoires d'outre-mer disposaient de leurs propres documents d'aménagement avant cette loi, avec un fonctionnement légèrement différent, et ils les ont conservés. La loi climat impose aux régions encadrées par un SRADET une diminution par deux de leur consommation d'espace dans la prochaine décennie. L'Île-de-France ne disposant pas de SRADET, elle n'est pas légalement contrainte par cette règle, mais elle devrait, selon nous, s'y plier quand même. C'est également ce que réclament des députés de la NUPES qui viennent de publier une tribune en ce sens, donc nous dit Louama Mestro de France Nature Environnement Île-de-France. Quels sont les territoires de l'Île-de-France les plus menacés par l'artificialisation? Nous sommes particulièrement préoccupés par le triangle de Gonesse, au nord de Paris. Une gare du Grand Paris Express doit être construite en plein champ, ainsi qu'un établissement scolaire, malgré une forte mobilisation contre ces projets. De même, l'urbanisation massive des terres fertiles du plateau de Saclay, en Essonne, nous inquiète. Ou encore, en Seine-et-Marne, 85 hectares de terres agricoles sont menacés par la construction de la ZAC de Valbréon 2, extension de Valbréon 1. Ce sont trois exemples d'espaces que nous aimerions voir sanctuarisés dans le SDRIF-E, donc le schéma directeur de la région d'Île-de-France. Question: le logement est la première source d'artificialisation en France. Estimez-vous qu'il faut continuer à en construire en Île-de-France? Réponse: oui, nous estimons qu'il faut construire plus de logements sociaux et très sociaux. Nous sommes d'accord avec l'objectif de la Fondation Abbé Pierre qui demande 30 000 logements de plus par an en Île-de-France. Mais nous estimons que le projet de SDRIF, qui reprend l'objectif de la loi Grand Paris de 2010 de construire 70 000 nouveaux logements par an, est insensé. De même, nous sommes contre la clause anti-ghetto voulue par Valérie Pécresse qui prévoit de freiner la construction de logements sociaux dans les communes qui en ont déjà 30%. Nous estimons, comme le prévoit le SDRIF, qu'il faut aller vers une région polycentrique, que toutes les richesses et les emplois cessent d'être concentrés à Paris. Les villes petites et moyennes doivent être rendues plus attractives, mais nous insistons sur le fait qu'il faut les densifier, c'est-à-dire y construire plus de logements au kilomètre carré plutôt que de continuer à urbaniser des espaces naturels. De plus, il est possible de créer de nouveaux logements sans artificialiser, en transformant des bureaux, en mutualisant des espaces, en rajoutant des étages à certains bâtiments, en réhabilitant les espaces vacants et les friches. Dernière question sur le calendrier, quelles sont les prochaines étapes avant l'adoption de ce document d'aménagement? Le SDRIF va être soumis à l'enquête publique en janvier 2024. France Nature Environnement Île-de-France participera à cette consultation, tout comme elle avait participé à la concertation en amont du projet avec la parution d'un livre blanc. Le document final doit être voté par le Conseil régional durant l'été 2024 avant d'être adopté par le Conseil d'État. D'ici là, nous allons continuer à nous mobiliser pour faire comprendre les enjeux du SDRIF au grand public et aux associations. Je reviens donc sur cet article, sur le sujet évoqué, la clause anti-ghetto, entre guillemets, bien sûr, hein, à prendre avec des guillemets, parce que c'est le discours, évidemment, de la réaction, donc bien de la majorité de droite du Conseil régional d'Île-de-France, qui prévoit donc de freiner la construction de logements sociaux dans les communes qui en ont déjà plus de 30%. En fait, il y a une inversion, hein, des rôles. Ce qu'on vit, c'est bien sûr ce qu'il faut, c'est une clause anti-spéculation, parce que ce qui est absolument anormal et totalement insoutenable et démentiel même, c'est le coût du logement privé en Île-de-France. C'est atteint des niveaux, c'est clairement la normalité. Donc construire des logements sociaux, ça veut dire construire des logements à loyer maîtrisé, ça veut dire s'inscrire dans la finalité du logement qui est une des conditions de la dignité, c'est-à-dire mettre un toit sur la tête bien de chacun. Voilà. Et non pas livrer cet objet, le logement, à la spéculation immobilière, à bien tous ces petits jeux avec les banques, avec les prêts, qui par effet rebond, et bien finissent par finalement vider les porte-monnaies de tous et jouer avec finalement bien un bien qui est parmi les plus précieux pour une vie digne. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette publicité, hein, d'un parti politique qui représente des communes ne disposant pas beaucoup de logements sociaux, voilà, et qui bien disent que le problème c'est les logements sociaux et c'est pas le logement cher. On voit à chacun son échelle de valeur, en tout cas c'est assez clair en ce qui concerne la présidence du Conseil régional d'Île-de-France. Et toujours sur ce sujet, avec la relève et la peste, dans un article du 1er août, donc c'est un site internet, un article en Île-de-France, la crise du logement sert de prétexte à l'artificialisation des terres. On en a parlé, hein, la zéro artificialisation nette pour 2050 prévoit qu'à l'horizon 2050, toute artificialisation de terres agricoles, forestières ou naturelles devra être compensée par la renaturalisation d'une parcelle d'une même dimension. Le problème, donc, avancé notamment par les oppositions, hein, au Conseil régional de gauche, la désartificialisation d'une zone et la création d'une nouvelle aire naturelle n'est pas équivalente à la destruction d'un écosystème riche de plusieurs milliers d'années, de zones fertiles ou de zones humides avec une biodiversité florissante. Et là, je reprends aussi le commentaire, hein, c'est comme détruire des arbres ici pour replanter des eucalyptus à perte de vue dans d'autres pays. On a évidemment l'illusion de la compensation d'un système gagnant-gagnant qu'aiment bien nous vanter les économistes libéraux. Tout peut se transformer en argent. Eh bien non, hein, on voit que les écosystèmes ont des richesses qui sont non compensables et certainement pas par de la monoculture comme on prétend le faire lorsque on veut se donner bonne conscience pour continuer à produire et à bétonner comme on le fait dans les projets d'aménagement. Je reprends la lecture de l'article. Donc, en Île-de-France, Valérie Pécresse a présenté un SDRIF bien en deçà des impératifs, donc on l'a vu. La politique donc de la majorité Les Républicains est principalement expliquée par la crise du logement que traverse la région. Chaque année, la région francilienne gagne environ 50 000 habitants. Dans le même temps, elle compte 1,3 million de personnes mal logées, dont 140 000 sans domicile fixe. Les marges de construction sont très réduites dans certaines villes, dont la densité du bâti est très forte. La région Île-de-France compte près de 6 millions de logements, dont environ 90% de résidences principales. Les autres logements sont soit vacants pour 7%, soit des résidences secondaires ou occasionnelles pour 3%. En 50 ans, le nombre de logements vacants a plus que doublé dans la région et presque triplé à Paris. Avec plus de 5 millions de ménages en Île-de-France en 2020 et un prix moyen du mètre carré de 6 000 euros, l'édification de nouveaux logements à bas coût accessibles aux foyers les plus modestes serait donc indispensable selon les membres de la majorité. Donc on a vu, je ne vais pas revenir dessus, hein, parce que l'article s'étend sur une mesure soi-disant anti-ghetto et pas anti-spéculation. Je pense que comme c'est un petit peu redondant, je vais passer à l'article suivant qui porte sur le jour du dépassement, puisque à partir de ce mercredi, enfin de mercredi 2 août, il me semble que c'est un article de Novetic qui nous dit qu'à partir du mercredi 2 août, l'homme vit désormais à crédit, puisque l'humanité a épuisé l'intégralité des ressources naturelles que la Terre peut générer en un an. Ainsi, durant les 5 mois qui restent à l'année 2023, l'humanité vivra à crédit en utilisant les ressources que la planète n'est plus en mesure de poursuivre. Un jour d'autant plus symbolique au regard du mois de juillet hors norme que nous venons de vivre, et on y reviendra. La planète bleue est toujours dans le rouge, et évidemment, donc la date du 2 août s'accompagne d'un autre chiffre tout aussi frappant. Selon l'indicateur fait par les calculs de l'ONG Global Footprint Network et du WWF, donc l'empreinte, empreinte écologique, eh bien, il faudrait l'équivalent de 1,7 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Et à noter que les besoins des autres espèces que l'espèce humaine vivant sur Terre ne sont pas pris en compte. Ce fameux jour du dépassement intervient chaque année un peu plus tôt. En 1971, ce seuil était atteint le 24 décembre, en 1980, le 4 novembre, en 2000, le 23 septembre, en 2010, le 9 août, en 2022, le 28 juillet, ce qui signifie que cette année, ce jour fatidique a reculé de 5 jours par rapport à l'année dernière. Donc il y a eu un léger progrès. Il ne faut pas pour autant se réjouir, puisque ce recul n'est pas réellement une bonne nouvelle, indique à Novetic, donc la revue, Mathis Wackernagel, qui est co-inventeur de l'empreinte écologique et co-fondateur du Global Footprint Network. Car c'est principalement dû à un changement de méthodologie qui intègre des données plus précises. Le jour du dépassement, n'avait pas changé de méthodologie, eh bien ce jour du dépassement n'a en réalité reculé que de 8 heures. Or, pour tenir les objectifs climatiques, il faudrait parvenir à gagner au moins 19 jours par an sur les 7 prochaines années. Détail dans un communiqué Jean-Louis Berger, qui est expert national de la direction exécutive prospective et recherche à l'ADEME. Le futur n'a jamais été aussi prévisible, explique Mathis Wackernagel. Nous savons que dans tous les scénarios possibles, il y aura plus de changements climatiques et toujours moins de ressources. C'est pour cette raison que le Fonds mondial pour la nature, WWF, s'est attardé cette année sur l'accaparement de l'eau douce, une ressource en danger, alerte auprès de Novetic, le directeur de la biodiversité terrestre du WWF France, Yann Laurence. C'est une ressource que l'on utilise de plus en plus mal et surtout de manière déséquilibrée. Une raréfaction aujourd'hui perceptible par la multiplication des épisodes de sécheresse, notamment en France, où la grande majorité des départements est toujours soumise à des restrictions d'eau et près d'une trentaine est même classée en situation de crise, le niveau maximum d'alerte sécheresse. Aujourd'hui, 70% de l'eau douce disponible dans le monde est utilisée par le système agroalimentaire industrialisé et en particulier pour l'industrie de la production carnée. Côté français, plus de la moitié de la ressource en eau disponible, 57%, est utilisée pour irriguer seulement 7% des terres agricoles. Or, les autorités n'ont pas pris la mesure du problème, qui est avant tout un problème d'organisation à l'échelle territoriale des manières dont on utilise l'eau et dont on priorise son usage, précise l'expert, qui appelle à une transition vers l'agroécologie et les solutions fondées sur la nature. Et cette logique devrait s'appliquer à toutes les ressources planétaires. D'ailleurs, la question de l'adaptation est aujourd'hui inévitable pour préserver à la fois les ressources planétaires, mais aussi pour limiter les risques liés au changement climatique. Et ne pas se préparer est absurde, car nous serons les premiers touchés, prévient Mathis Vakernagel, ajoutant que si on s'adapte dès maintenant, cela aura un impact positif pour la planète. Voilà, on va s'accorder une pause après cette introduction assez longue. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. C'était Edith Nylon par Edith Nylon sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Vous êtes dans l'émission Les Mangeux de Terre et nous continuons notre tour de l'actualité avec eh bien, les informations du mois écoulé en ouvrant la page à la fois biodiversité et aussi de l'eau. Alors sur la biodiversité, avec Marc Lémé et son site Les Eaux Glacées du Calcul Égoïste, eh bien, on a un lien vers l'association Canopée qui dénonce la stratégie forêt du gouvernement Puisqu'un rapport des propositions stratégiques pour renouveler la forêt française a été remis le 26 juillet au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui est Canopée. Donc l'association nous dit que pour répondre à l'objectif fixé par le président de la République de planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, eh bien, ce ministère de l'Agriculture avait confié à un comité spécialisé du Conseil supérieur de la forêt et du bois l'élaboration d'un rapport. Ce cadre confidentiel n'a pas permis une large participation des acteurs associatifs et de la communauté scientifique qui s'en ressent d'ailleurs dans ses conclusions. Ainsi, ce rapport promeut la transformation de forêts françaises en plantations peu diversifiées après coupe rase des peuplements existants et améliorables, ce qui est contraire aux déclarations récentes du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Jusqu'au bout des négociations sur ce texte, le ministère de l'Agriculture s'est opposé à l'intégration de critères sur la biodiversité permettant de garantir l'absence de dégradation d'habitat ou d'espèces protégées. Les conclusions de l'expertise scientifique sur les coupes rases, pourtant commandées par les deux ministères et rendues publiques le 22 novembre 2022, ont été ignorées, notamment à propos des impacts sur le climat de cette pratique controversée. Les coupes rases, donc de parcelles, hein, on abat tous les arbres, entraînent des émissions importantes et immédiates de gaz à effet de serre, en particulier lorsque le sol est travaillé. Ces émissions ne peuvent pas être annulées à court et à moyen terme par la plantation de nouveaux arbres. Cette stratégie risque donc d'accentuer davantage la chute du puits de carbone forestier. De plus, les coupes rases entraînent une destruction de l'ambiance forestière, ce qui expose les jeunes plants au plein soleil avec un risque fort de mortalité. Enfin, les arbres plantés sont majoritairement des résineux avec des critères de diversification insuffisants. Par exemple, planter 2 espèces de pins proches à la place d'une forêt diversifiée de feuillus est autorisé. Une stratégie promue par la principale coopérative forestière privée, Alliance Forêt-Bois, très influente auprès du ministère de l'Agriculture. Sylvain Angerand, qui est coordinateur des campagnes pour l'association Canopée, conclut: une politique forestière ne se limite pas à un nombre d'arbres plantés. Il est urgent que des arbitrages aient lieu au plus haut sommet de l'État pour placer le maintien et la restauration de la biodiversité au cœur de la stratégie forestière. Sans critères plus stricts, le risque est de subventionner massivement une politique de destruction du puits de carbone et de maladaptation des forêts françaises au changement climatique. Voilà, ben un petit commentaire de ma part. Effectivement, on le voit, on remet dans les mains d'intérêts puissants et voilà, qui n'ont qu'une solution productiviste en tête. On n'ouvre pas la concertation et notamment on ne construit pas à partir des acteurs de terrain. Et forcément, ben les conclusions vont dans le sens de la croissance destructrice, bien sûr, et vont dans le sens finalement de solutions prise sous un seul angle, l'angle de la productivité et de la quantité. C'est vrai que ce règne de la quantité, c'est aussi ce qui nous tue, on le voit, mais malheureusement nos décideurs, issus pour la plupart du monde de l'entreprise, ne savent penser que comme ça. Mais lorsque le dernier arbre aura été abattu, peut-être qu'on s'apercevra que l'argent ne se mange pas, comme le dit cette fameuse citation de sagesse indienne. Et puis, sur la biodiversité, donc sur la question de l'eau également, avec un événement qu'on ne peut pas passer sous silence, puisqu'il est tout à fait récent. Et dans le grand cirque des Jeux Olympiques de Paris 2024, on a eu tout à fait récemment l'annulation de la compétition de natation dans la Seine. J'ai pris l'info sur le site Citoyen 94 qui, évidemment, interroge à un an donc du démarrage des Jeux Olympiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en raison des fortes pluies qui ont fait déborder les égouts dans la Seine, la compétition de natation en eau libre qui était prévue ce week-end à Paris a été annulée. Et c'est une occasion manquée de tester la baignade dans la capitale à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une ultime réunion nocturne entre le comité d'organisation COJO, la ville de Paris, les fédérations sportives entre autres, pour étudier les dernières analyses, la décision a été prise donc de ne pas faire plonger les nageurs et nageuses du pont Alexandre III en plein centre de Paris pour cette épreuve de Coupe du Monde. En cause, les fortes pluies tombées donc plus tôt cette semaine qui ont fait déborder les égouts, on l'a dit, et ramener les eaux usées dans le fleuve. On est tous déçus ce dimanche matin, d'abord pour les athlètes et pour l'organisation de l'événement. Ça s'est joué à quelques heures, a réagi Pierre Rabadan, adjoint au sport, JO et scène de la mairie de Paris devant les pontons vides. Alors que la météo s'améliore progressivement, il a assuré que selon les relevés en temps réel de la mairie, la qualité de l'eau de la Seine était bonne ce dimanche matin. Mais la décision a été prise sur la base d'une analyse sur la bactérie Escherichia coli qui remontait à 24 heures avec une concentration qui était encore au-delà du seuil limite à 1300 UFC par 100 ml, là où la Fédération internationale de natation impose un taux inférieur à 1000. Depuis jeudi, la Fédération française de natation, de concert avec World Aquatics, pointait une qualité d'eau en dessous des normes acceptables et avait annulé l'entraînement avant de reporter l'épreuve des femmes de samedi à dimanche. World Aquatics s'est dit dimanche déçu que la qualité de l'eau entraîne l'annulation de cette Coupe du Monde, mais la santé des athlètes doit toujours être notre priorité, a déclaré Hussein Al-Musallam, son président, cité par le communiqué diffusé dimanche au petit matin. Depuis 4 jours, le COJO, la ville de Paris ou encore la préfecture de la région Île-de-France soulignent pour leur part que les précipitations sont exceptionnelles pour la saison. Cette dernière avait tout de même pris un arrêté le 27 juillet pour autoriser dans son principe la compétition en se basant sur 42 résultats d'analyse d'eau de juin et juillet. Citation. La qualité de l'eau continuera d'être surveillée attentivement dans l'espoir confiant sur la base des prévisions météorologiques actuelles que des athlètes de haut niveau puissent participer à une compétition dans la Seine lors du test event de triathlon et paratriathlon prévu du 17 au 20 août, a expliqué le comité d'organisation. Une nouvelle déconvenue dans une dizaine de jours serait préoccupante pour les organisateurs mais aussi pour la ville de Paris dont la maire Anne Hidalgo promet de futures baignades dans la Seine pour 2025. Ce dimanche matin, malgré les mines déçues, tant que le COJO, que la mairie de Paris et la préfecture se montraient confiants pour une prochaine tentative. Le scénario de pluie abondante était redouté par tous les acteurs et dans l'optique des Jeux, plusieurs chantiers sont en cours pour essayer de parer à ce risque, comme le bassin d'Austerlitz, encore en construction, qui va permettre de stocker des eaux pluviales, 50 000 m3, et qui fonctionnera en 2024. Mais attention, a prévenu en langage diplomatique World Aquatics, il faut continuer à travailler avec Paris 2024 et les autorités locales pour s'assurer que des plans de contingence solides sont en place pour l'année prochaine. Interrogé quant à savoir si le comité d'organisation allait revoir ses plans pour les JO et prévoir un plan B, Brigitte Légaré, responsable des compétitions dans Paris Centre, a expliqué dimanche que la compétition dans la Seine se tiendrait à la fin des JO, 26 juillet, 11 août, donc les 8 et 9 août, et qu'il serait possible de la décaler d'une journée si besoin. Avec l'épisode historique de précipitation qu'on vient d'avoir, on va regarder ce qu'on a mis en place. Il y a des choses qu'on peut changer, améliorer, a-t-elle argué. Voilà. Eh bien, on le voit, la nature eh bien, se rappelle à notre bon souvenir. On peut aussi entendre en écho la promesse d'un ancien maire de Paris de se baigner dans la Seine, ce qu'il n'avait pas fait. Et on peut aussi regarder pour ces questions comment, et c'est toujours intéressant, comment les assureurs se comportent par rapport aux risques liés à ces événements. En tout cas, on nous vend du rêve, hein, c'est clair que le matraquage médiatique est absolument hallucinant sur ces Jeux Olympiques. Pour autant, on est rattrapé par la réalité, en tout cas comme on vient de le voir, pour cette épreuve donc de natation qui a été tout simplement annulée pour des causes sanitaires. Alors, puisqu'on parle du sujet de l'eau avec Actu Environnement, on parle d'un chiffre 28,71 degrés, 28 degrés et 71 centièmes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la température moyenne de la surface de la mer Méditerranée qui a été observée par l'Institut des sciences de la mer de Barcelone lundi 24 juillet. Le précédent record depuis 82 datait du 23 août 2003, donc pendant la canicule, avec 28,25 degrés. Au-delà de ce triste record qui pourrait être à nouveau battu durant l'été, l'Institut des sciences de la mer de Barcelone a publié une étude complète sur la Méditerranée qui constate que sa température et sa salinité augmentent sur toute la profondeur, de la surface aux couches les plus profondes. Il a également détecté que la température de l'eau de surface progresse à un rythme très intense. Ces travaux ont été publiés dans le Journal of Marine Science and Engineering. Voilà, et alors, quand on revient sur Terre, donc on parle des eaux fluviales, eh bien, avec Reporter, article du 17 juillet, qui revient sur le fait que 730 tonnes, soit donc 730 000 kilos de pesticides, finissent chaque année dans nos cours d'eau à travers le globe. Et cela, c'est un des résultats inquiétants d'une étude parue le 12 juillet dans la revue Nature. Cette analyse mondiale, la première de cette ampleur, révèle que des phytosanitaires, loin de rester sur les plantes, se déplacent très loin, s'infiltrant dans les aquifères, les rivières, les océans et les sols. Environ 3 millions de tonnes de pesticides agricoles sont utilisées chaque année dans le monde, mais on sait peu de choses sur les lieux et les environnements dans lesquels ces produits chimiques aboutissent après leur application initiale, ont précisé les chercheurs de l'Université de Sydney à l'origine de cette étude. L'objectif était donc de suivre le cheminement de ces molécules toxiques dans l'environnement. Les scientifiques se sont concentrés sur 92 substances actives de pesticides agricoles les plus utilisées. Sur les 940 000 tonnes de produits examinés, 82% sont dégradés biologiquement, 10% restent sous forme de résidus dans le sol et 7,2% sont lessivés et se retrouvent dans les aquifères. Dans les cours d'eau, très peu sont dégradés. Les chercheurs ont observé une pollution au-delà des niveaux de sécurité sur plus de 13 000 km de rivière. À l'arrivée, 710 tonnes se déversent tous les ans dans les océans. Sur le papier, un taux de lessivage de 0,1% dans les cours d'eau douce ne semble pas énorme, a précisé un des auteurs, Federico Maggi, dans un communiqué. Mais il suffit d'une quantité infime de pesticides pour avoir un impact négatif sur l'environnement. Les chercheurs se sont également montrés prudents. Il est fort probable que les quantités données soient sous-estimées. Certains pesticides désormais interdits n'ont pas été tracés, alors qu'ils peuvent persister longtemps dans l'environnement. Les scientifiques n'ont pas non plus analysé les pesticides utilisés en aquaculture ou dans les jardins privés et les espaces verts. Dernier point et non des moindres, l'étude a montré qu'environ 80% des pesticides appliqués se dégradent en molécules filles. Or, ces sous-produits peuvent persister dans l'environnement pendant une longue période et être tout aussi nocifs que la molécule mère ou le pesticide appliqué, a indiqué le professeur Maggi. Le glyphosate en est un bon exemple. Bien qu'il soit hautement dégradable, il se décompose en une molécule connue sous le nom d'AMPA, qui est à la fois très persistante et toxique. Une pollution insuffisamment étudiée et prise en compte, nous dit Reporter. Et puis, toujours sur le sujet de l'eau, je voulais revenir avec Novetic dans un article du 19 juillet sur l'état des lieux de la Cour des comptes, implacable alors que le pays est à sec, puisqu'un nouveau rapport a été publié le 17 juillet. Alors la Cour des comptes épingle toujours, elle a sa boîte d'épingles, et bien l'article ne manque pas de souligner, donc elle a épinglé la gestion de l'eau en France en pleine crise climatique. Réduction des prélèvements, inutilité des méga-bassines en cas de sécheresse hivernale, tarification progressive de l'eau, eau usée, voici ce qu'il faut en retenir à l'heure où, en tout cas à la mi-juillet, 68% des nappes phréatiques étaient toujours sous les normales de saison. Il va falloir fermer le robinet. Ce nouveau rapport de la Cour des comptes sur la gestion quantitative de l'eau en période de changement climatique donne le ton. Nos ressources en eau s'amenuisent et la situation ira en s'aggravant dans les décennies qui viennent. Le message a le mérite d'être clair. La quantité en eau renouvelable disponible a baissé de 14% entre les périodes 90-2000 et 2002-2018. Et la situation risque de s'aggraver avec une baisse de 30 à 40% supplémentaire à l'horizon 2050. La France va donc devoir apprendre à réduire sa consommation d'eau et à raisonner son usage. Pour la Cour des comptes, c'est l'unique solution. Elle est la condition du retour à l'équilibre dans les zones en tension et de la restauration du bon état des masses d'eau. Pourtant, elle n'est pas encore considérée comme une priorité. Chaque année, 32 milliards de mètres cubes d'eau sont prélevés pour satisfaire les différents usages. La moitié, soit 16 milliards de mètres cubes, permet notamment le refroidissement des réacteurs nucléaires. Cette eau est ensuite restituée. Viennent ensuite, presque à égalité, les prélèvements au profit de l'eau potable, 5,3 milliards de mètres cubes, de l'alimentation des canaux, à peu près autant, puis des usages agricoles, 3 milliards de mètres cubes, et enfin, des usages industriels, 2,5 milliards de mètres cubes. À noter que la majeure partie de ces prélèvements est réalisée sur les eaux de surface, 82%. Cependant, les eaux souterraines ne sont pas épargnées. 11% des eaux souterraines font l'objet de prélèvements excessifs, note le rapport de la Cour des comptes. S'interrogeant sur les récents projets d'irrigation agricole, la Cour des comptes précise que, bien que la consommation d'eau potable reste un usage prioritaire que personne ne conteste, les autres usages sont plus conflictuels. Le rapport fait notamment allusion au barrage de Caussade dans le Lot-et-Garonne et de Sivens dans le Tarn, mais aussi à la construction de méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. L'institution insiste sur le fait que ces réserves de substitution n'incitent pas à réduire l'irrigation et s'avèrent même inutiles en cas de sécheresse hivernale ou pluriannuelle, phénomène qui doit s'accentuer sous l'effet du réchauffement climatique. La Cour appelle même à un renforcement du contrôle des autorisations de prélèvement et estime que le financement public d'infrastructures d'irrigation de terres agricoles devrait être conditionné à des engagements de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Faut-il alors se tourner vers la technologie ? C'est non pour la Cour des comptes. Alors que le plan eau présenté par le gouvernement prévoit de réutiliser 10% des eaux usées d'ici 2030 contre moins de 1% aujourd'hui, les magistrats jugent la solution coûteuse. Idem pour la désalinisation de l'eau de mer jugée trop énergivore. Quant à l'interconnexion des réseaux entre les communes, cette méthode présente des limites en cas de raréfaction ou de dégradation généralisée de la ressource. À la place, la Cour des comptes prône des solutions fondées sur la nature, plus prometteuses, bien que certaines puissent s'avérer longues et complexes à mettre en œuvre, surtout si elles appellent à modifier la conception des villes, l'aménagement du territoire et les pratiques agricoles. À plus petite échelle, le rapport préconise de mettre en œuvre une tarification progressive partout où cela est possible pour inciter les gros consommateurs à modifier leur comportement. Déjà expérimenté à Dunkerque dans le Nord, à Libourne dans la Gironde ou Montpellier dans l'Hérault, cette mesure ne devrait pas uniquement être réservée aux particuliers comme le prévoit le plan eau du gouvernement. Par exemple, cette tarification pourrait également s'appliquer aux prélèvements destinés à l'irrigation et aux industries raccordées au réseau d'eau potable. Ces prélèvements ont plus que doublé en une décennie, note la Cour des comptes. Enfin, les auteurs de ce rapport regrettent le manque de lisibilité dans la gouvernance de la gestion de l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, la politique de l'eau a essentiellement consisté à organiser sa répartition entre les différents usagers. Or, elle doit désormais devenir une politique de protection d'un bien commun essentiel, insiste la Cour des comptes. Voilà, bien, il me semble que la boucle est bouclée, en tout cas, dans cette conclusion. Protection d'un bien commun essentiel, on le voit pour l'eau. J'en parlais tout à l'heure pour la politique du logement. On voit que tout ça, c'est finalement cet horizon vers lequel on doit tendre. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure deux Jeux Olympiques, on va se faire une pause musicale en lien avec ce sujet. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Ce serait chouette les Jeux Olympiques, tous ces athlètes dans la foulée, pour un marathon fantastique, à la seule force du bolet. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, l'émulation sur la cendre. Ce serait chouette les Jeux Olympiques, sinon de Dieu il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fagnon, couleur kaki, caca doigt des frontières. Leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette les souvenez-vous. Et n'oublie pas que la guerre est conne. Les recueillements sur les trous où les soldats fusillés dorment. Ce serait chouette, les souvenez-vous. Les manifestations de paix. Ce serait chouette, les souvenez-vous. Sinon de Dieu, il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fanion, leur petit tambour qui donne la cadence. Leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une minute de silence. Ce serait chouette d'aller sur la lune, dans le scaphandre Pierrot. J'y emporterai bien ma plume pour vous écrire quelques mots. Ce serait chouette d'aller sur la lune, en vacances pour mille étés.
ce serait chouette d'aller sur la lune. Sinon de Dieu, il n'y avait. Leur petit drapeau, leur petit fagnon, pour cette fois, ricain de préférence. Leur petit drapeau, leur petit fagnon, leurs petites étoiles, la grande ours s'en balance. Ce serait chouette si tous les drapeaux voulaient bien se donner la hampe.
Ça ferait des pyjamas très beaux,
des soutiens-gorge pour les vampes. Ce serait chouette si tous les drapeaux finissaient un jour tas de lit. On y ferait l'amour bien au chaud avec les filles de leur pays, avec les filles de leur pays, avec les filles de leur pays.
Voilà, c'était un hommage à Henri Tachan sur Radio Libertaire. Henri Tachan qui est mort eh bien, ce mois-ci. Voilà, on voulait lui rendre hommage. Eh bien, on a trouvé cette chanson en public, donc les Jeux Olympiques. Henri Tachan, on salue ta mémoire et on continuera à t'écouter sur Radio Libertaire. On reprend le cours de l'émission Les Mangeterres avec la page, on va dire, climat, effet de serre, énergie, au sens large, avec évidemment ce qu'on a tous ressenti, alors bien sûr à divers niveaux, hein, puisque selon la moitié de la France dans laquelle on se trouvait, eh bien, les effets n'ont pas été aussi perceptibles. En tout cas, au niveau global, donc, reporter du 20 juillet nous dit que la température du globe atteint des niveaux hors normes. Selon un groupe universitaire états-unien, la courbe de température de la planète dépasse largement la moyenne des 40 dernières années. Et tout cela est un résultat cohérent avec les données de l'observatoire européen Copernicus. Alors, le phénomène est impressionnant. Non seulement juin 2023 était le mois de juin le plus chaud enregistré, mais juillet prend le même chemin, puisque ces derniers jours, et ça a été confirmé, hein, là l'article n'en parlait pas, en tout cas, l'écart avec la température moyenne de l'atmosphère, 15 degrés environ depuis 40 ans, a dépassé les 2 degrés. Les 17 degrés ont été franchis depuis le 3 juillet, avec un record à 17,2 degrés le 6 juillet. L'évolution de cette moyenne depuis le début 2023 a été calculée par Climate Reanalyzer. Ce site web a été créé début 2012 par un climatologue professeur à l'université du Maine, Sean Berkel, et il reste adossé à cette université. C'est en réalité une plateforme de visualisation des prévisions climatiques et météo. Autrement dit, il met en scène sous forme d'infographie des données disponibles publiquement. La courbe, donc réalisée par l'université du Maine, indique les instantanées de température moyenne de l'atmosphère heure par heure à 2 mètres d'altitude au-dessus des terres et des mers. Donc on voit clairement, quand on consulte, vous avez sans doute dû voir ces graphiques, depuis le début de l'année, des niveaux qui dépassent nettement tous les précédents. Et notamment les enregistrements des années de 1979 à 2022. Alors, Climate Reanalyzer précise que ce graphe, donc le graphe produit, n'est pas un enregistrement officiel des records. Les chiffres sont produits par des programmes de réanalyse qui passent à la moulinette informatique une série de mesures des températures effectuées par l'Agence états-unienne d'observation océanique et atmosphérique. Cette agence est l'un des grands acteurs de la recherche sur l'environnement aux États-Unis. A précisé qu'elle produira plus tard son propre rapport sur les températures de juillet fondé sur une quantité de relevés sur le terrain plus importante. Donc on voit, ça donne une tendance. En tout cas, ce travail de Climate Reanalyzer qui est donc jugé solide et cohérent avec l'analyse de Copernicus, qui est l'observatoire européen du changement climatique. Puisque d'après les résultats préliminaires de l'outil d'analyse des données multiples mis au point par Copernicus, la température moyenne de l'atmosphère le 6 juillet a atteint 17,03 degrés, soit une valeur très proche de celle fournie par le site états-unien. Donc, on le voit et on en ressent les effets. Et on prévoit même, hein, puisque un climatologue de la NASA le dit, il s'agit de Gavin Schmidt, que l'année 2024 serait encore plus chaude que 2023, car elle saura commencer, en tout cas au niveau mondial, hein, avec le phénomène El Niño qui s'accumule en ce moment et qui atteindra un sommet vers la fin de l'année 2023, donc hiver 2024. Alors, Reporter, toujours dans un autre article, nous dit que les vagues de chaleur actuelles sont bien causées par le changement climatique. Ça, ce sont la conclusion des scientifiques du World Weather Attribution, WWA, qui est un groupe de chercheurs qui regroupe plusieurs institutions de référence à travers le monde. Ce groupe de scientifiques, donc WWA, a publié le 25 juillet son analyse rapide d'attribution. Rapide car leurs résultats ont été publiés sans relecture préalable par les pairs, comme c'est normalement d'usage pour les études scientifiques. Mais le process prendrait des mois, voire des années. Et les chercheurs ont fait valoir l'importance pour le débat public d'établir la causalité entre changement climatique et événements extrêmes quelques jours après leur survenue. Ils utilisent toutefois des méthodes d'attribution qui, elles, ont été validées par la communauté scientifique. Il s'agit de modèles qui simulent l'intensité et la probabilité des événements climatiques dans un monde avec 1,2 degré de plus de réchauffement global et dans un autre qui n'aurait connu aucun réchauffement. Résultat, les vagues de chaleur actuelles qui n'auraient théoriquement pas pu advenir sans la combustion d'énergies fossiles, la déforestation et l'influence d'autres activités humaines sur le climat ont aujourd'hui une probabilité de survenir une fois tous les 15 ans concernant le phénomène nord-américain et une fois tous les 10 ans pour ce qui se passe dans le sud de l'Europe et une fois tous les 11 ans en Chine. Dans un monde atteignant 2 degrés de réchauffement, ce qui devrait survenir tous les 30 ans en l'état actuel des politiques, rappellent les chercheurs, ces événements deviendraient récurrents tous les 2 à 5 ans. Autre précision donc, de ce collectif WWA, des phénomènes climatiques naturels comme El Niño, on en parlait, contribuent à accentuer l'intensité des vagues de chaleur, mais la cause principale de ces vagues de chaleur et de leurs conséquences, comme la multiplication des méga-feux, est bien d'origine humaine. Le monde n'a pas arrêté de brûler des énergies fossiles, le climat continue donc de se réchauffer et les vagues de chaleur continuent de devenir de plus en plus extrêmes. C'est aussi simple que cela, résume Frédéric Otto, qui est maître de conférences en sciences climatiques à l'Institut Grantham pour le changement climatique et l'environnement de l'Imperial College de Londres et qui participe à ce collectif WWA. Nous avons toujours le temps d'assurer un avenir sûr et certain, mais nous devons en urgence arrêter de brûler des combustibles fossiles, sinon des dizaines de milliers de personnes continueront de mourir des conséquences de la chaleur chaque année, prévient le scientifique. Et voilà, je pense que c'est pas la peine d'illustrer, en tout cas du côté de la Grèce, du côté de l'Algérie, voilà, les méga-feux ont été suffisamment dramatiques pour que on n'ait pas besoin d'illustrer un peu plus toutes ces conséquences. Alors, on n'a peut-être pas appris grand-chose, mais en tout cas, c'est quand même bon de se rappeler que le premier réflexe à avoir, c'est pas de mettre à fond la climatisation, mais peut-être avant tout de réfléchir à nos modes de consommation et à mesurer réellement leur impact et d'arrêter de s'en tenir à la phrase prononcée par un président américain qui disait que notre niveau de vie n'est pas négociable. Eh bien si, justement, notre activité humaine doit s'inscrire dans ce que la nature peut supporter, et donc tout ne nous est pas dû, que ce soit l'assistance par des moteurs divers pour nos déplacements, jusque à nos modes de rafraîchissement. Il n'y a absolument rien de naturel, et au contraire, la climatisation aggrave la situation, et il me semble bon de le rappeler. Il me semble bon aussi de rappeler l'aberration de certaines politiques, en tout cas qui sont conduites, pour ne pas dire toutes, avec toujours Reporter, dans le 20 juillet, qui nous donne un très court article nous disant qu'en France, prendre le train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que prendre l'avion. Greenpeace Europe a publié donc un rapport Europe centrale et de l'Est, a comparé le prix du train et a publié un rapport le 20 juillet. Comparant le prix du train et de l'avion dans toute l'Europe, sur le continent, le train est en moyenne 2 fois plus cher. Pour certains trajets, le fossé se creuse davantage. Un Barcelone-Londres coûte jusqu'à 30 fois plus cher par le réseau ferroviaire. Cette différence abyssale entre les tarifs de ces deux modes de transport va à l'encontre de l'urgence climatique et de la nécessité de diminuer le trafic aérien et de développer le réseau ferroviaire, souligne Greenpeace dans son communiqué à la presse. Les effets du train sur le climat sont pourtant jusqu'à 100 fois moins importants que ceux de l'avion, indique l'ONG. Forte de ces arguments, elle réclame une mobilisation des institutions européennes et des gouvernements nationaux pour rendre le train plus abordable que les vols. Dans une série de recommandations au gouvernement français, Greenpeace France réclame la fin des exemptions fiscales anachroniques pour le secteur aérien et l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets afin de financer les alternatives bas carbone. L'ONG recommande également d'encourager l'usage du train avec la création d'un ticket climat, c'est-à-dire un forfait qui permettrait à tous d'emprunter le train hors TGV de manière illimitée et à un prix abordable. Voilà, on voit qu'on essaye, en tout cas, les gouvernants essayent de ménager la chèvre et le chou et de faire du en même temps, en disant qu'on peut continuer à faire des affaires tout en préservant l'environnement. Bien là, non, clairement, hein, ce que nous dit cet article, c'est et à envisager, c'est la fin de ce mésusage absolu des ressources, la fin de, en tout cas de l'aviation à caractère commercial et touristique. Voilà, c'est la conclusion qu'on peut tirer de cet article. Et alors, bien sûr, ça apporte un désagrément fort par rapport à l'imaginaire et toute la publicité et tout ce qui s'est développé autour du fait qu'on peut se retrouver à un autre point de la planète sans plus d'impact que ça. Bien sûr, ça choque, mais c'est en tout cas la mesure des décisions qu'il faudrait prendre pour bien inverser la tendance et en tout cas espérer contenir ce réchauffement climatique, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas revenir en arrière, en tout cas dans un certain nombre d'années. Et puis alors sur l'énergie, puisque on parlait des transports et ça fait la transition. Alors un article qui fait un petit peu le lien aussi avec l'agriculture. Avec la Confédération paysanne, donc dans un communiqué du 11 juillet, qui nous dit que la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, qui est de mars 2023, et plus particulièrement son article 54, relatif au photovoltaïque sur terres agricoles, n'avait pas permis de créer un cadre national protégeant les terres agricoles de l'appétit des marchands de soleil. Les ministères de l'Agriculture, de la Transition énergétique et de la Transition écologique ont en effet présenté un projet de décret d'application de cet article de loi aux organisations agricoles. Pourtant très insuffisant pour bloquer les projets alibi et protéger le foncier agricole, ce projet de texte réglementaire a été attaqué de toutes parts par les Chambres d'Agriculture France, la FNSEA et la Coordination Rurale. Des organisations qui devraient pourtant avoir vocation à protéger les paysannes et paysans de l'appétit des énergéticiens. Ce décret devrait ainsi faire tomber les rares encadrements jusque-là envisagés, ouvrant la porte à tous les effets pervers du photovoltaïque au sol. Artificialisation qui porte atteinte à la vocation nourricière de la terre, précarisation des paysans, manne financière générant des conflits d'intérêts et une spéculation foncière, perte de la qualité de vie au travail, dégradation des paysages, menace pour la biodiversité. Pour la Confédération paysanne, la situation est claire. Le potentiel de production d'énergie photovoltaïque sur toiture et espaces artificialisés est suffisant pour répondre aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement. Ce qui doit être garanti, c'est le revenu agricole des paysans qui ont comme légitime aspiration de vivre de leur production et de nourrir leurs concitoyens. La protection du foncier agricole et la défense de notre souveraineté alimentaire doivent être nos priorités collectives face au projet de photovoltaïque au sol. Voilà, qui a le mérite d'être clair. Et puis, eh ben, c'est arrivé tout à fait récemment. Donc, Reporter nous rappelle que le 1er août, donc voilà, il y a quelques jours, la facture d'électricité des ménages au tarif réglementé a grimpé de 10%. Et cette nouvelle avait été annoncée le 18 juillet par le gouvernement. Et ça représentera un surcoût d'environ 160 euros sur l'année, s'appliquant aux commerçants, artisans, petites entreprises dont la consommation est inférieure à 36 kV ampères. Une décision qui n'a rien de surprenant puisque Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics, avait annoncé le 13 juillet dernier sur RTL la fin progressive du bouclier tarifaire de l'électricité d'ici à la fin de 2024. Ce bouclier est en place depuis février 2022. Pour l'association l'UFC Que Choisir, cette annonce est un véritable scandale. L'association de consommateurs souligne que lors de l'annonce de la mise en place du bouclier tarifaire, le gouvernement avait indiqué que la hausse des prix de l'électricité serait limitée à 15% en 2023, et ce qui est une promesse qui est non tenue. Le gouvernement tente cyniquement de minimiser la réalité de l'explosion des factures d'électricité à laquelle les consommateurs sont confrontés, ajoute Marie-Amandine Stévenin, qui est présidente de l'UFC Que Choisir. Il a en effet beau jeu d'indiquer que la facture annuelle d'un ménage chauffé à l'électricité augmentera en moyenne de 160 euros par an, en oubliant de comptabiliser l'augmentation de 15% subie en février. L'association réclame le maintien du plafonnement du tarif réglementé de vente de l'électricité à son niveau actuel jusqu'à la fin de l'année. De son côté, le député Europe Écologie Les Verts Nicolas Thierry considère que la sortie de ce bouclier tarifaire, écologiquement inefficace, socialement injuste et financièrement intenable, était inéluctable. Aider de la même manière un foyer qui dispose d'une piscine et un autre qui passe l'été dans un appartement exigu n'a aucun sens, estime-t-il. À la place, le député écologiste plaide pour un bouclier tarifaire alternatif. En dessous d'un certain seuil de consommation, tous les ménages bénéficieraient d'un prix protégé inférieur au prix actuel, et au-delà, toute consommation serait tarifée au prix de marché. Voilà pour ce qui concerne l'électricité, hein, parce qu'on nous dit que grâce au nucléaire, eh bien, on a une électricité qui est pas chère. Effectivement, on voit ça. Et le charbon, alors là, c'est un article du Fabrice Nicolino, donc sur son site du 19 juillet, qui a produit un billet qui nous dit que le charbon habite le si vaste pays du mensonge. Officiellement, on rasera gratis demain car on aura éliminé le charbon, gros émetteur de gaz à effet de serre, par des énergies dites renouvelables. Mais c'est du pipeau. En 2022, la puissance installée de toutes les centrales à charbon de la planète a augmenté de 19,5 gigawatts. Elle aurait dû baisser, puisque des centrales à charbon ont été arrêtées, pour un total de 26 gigawatts, mais dans le même temps, de nombreuses installations ont été ouvertes, pour une puissance installée de 45,5 gigawatts, et 60% des centrales nouvelles se trouvent en Chine. La Chine, qui prétend tout ce que les niais et les corrompus veulent croire, est une spécialiste de la désinformation qui a très grossièrement truandé ses chiffres publics. On apprenait ainsi le 4 novembre 2015 que la consommation de charbon était supérieure de 17% depuis des années à ce qui était annoncé. Pour la seule année 2012, 600 millions de tonnes avaient été dissimulées. Seules les dictatures accomplies sont capables de tels exploits. Donc là, ce que dit Fabrice Nicolino, hein, c'est que, eh bien, on a sorti de la Manche, en tout cas dans les calculs, des nouvelles centrales et des nouvelles consommations qui n'avaient pas été comptées, en particulier en Chine. Je reprends la lecture de l'article. L'Inde, au-delà de grandes différences, est sur une pente comparable. Sa production a augmenté de 6% en 2021, 800 millions de tonnes, et même de 11% en 2022, près de 900 millions de tonnes. On devrait atteindre dans 2 ans le milliard, mais ça ne suffit pas, tant la demande est grande. En 2022, la consommation a été de 1,03 milliard de tonnes, obligeant le pays, donc l'Inde, à importer massivement cette arme de destruction massive du climat. Dans ces conditions, qu'attendre ? En 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale a encore augmenté de 1,2%, dépassant les 8 milliards de tonnes. Malgré les falbalas des tentures officielles et des sommets de la Terre, le charbon reste, et de loin, le plus grand producteur d'électricité dans le monde. Ne pas oublier que l'électricité n'est pas un minerai ou un puits dans lequel plonger son tuyau. Pour en obtenir, il faut d'abord cramer une énergie dite primaire, dont le gaz, le pétrole, l'hydroélectricité, l'uranium, etc. Mais le charbon en 2022 est le champion incontesté avec 36% du total. C'est un peu fâcheux car selon Global Energy Monitor, un observatoire américain, le rythme mondial des arrêts de centrales devrait être 4,5 fois plus rapide afin de mettre le monde sur la bonne voie pour éliminer le recours au charbon dans le secteur électrique d'ici 2040, comme requis pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Il est assez douteux que cela s'arrange, car la situation fait penser aux fameuses boucles de rétroaction climatique. Alors, Fabrice Nicolino explique par un exemple. Le dérèglement climatique a tendance à faire fondre le permafrost, qui est le sol gelé des immensités arctiques et sibériennes. Le permafrost relâche ainsi des gaz à effet de serre, dont le terrible méthane, ce qui augmente le dérèglement global, qui accélère la fonte du permafrost, etc. Cette rétroaction dite positive, et oui, positive, est bien un emballement. Or, on le sait, la crise climatique provoque des phénomènes extrêmes, dont les sécheresses sans précédent. Comme en Chine l'été passé, où l'hydroélectricité, le tiers de la production mondiale, s'est effondrée, obligeant à massivement augmenter la consommation de charbon. À une échelle moindre, l'Europe a fait pareil à cause de la guerre en Ukraine et des craintes sur l'approvisionnement en gaz. Si on veut passer malgré tout un bon moment, on peut écouter l'historien Jean-Baptiste Fressoz nous raconter à quel point la transition énergétique est un mythe. C'est lumineux, il montre que dans l'histoire de l'énergie, on ne fait jamais qu'empiler les offres les unes sur les autres, ainsi du bois énergie qui n'a pas été remplacé par le charbon, ainsi du charbon qui n'a pas été remplacé par le pétrole, ainsi du pétrole ou du gaz dont la consommation mondiale n'a jamais été aussi forte malgré le solaire et le vent, ainsi ce nucléaire dont nous sommes si fiers et qui ne change rien à l'augmentation sans fin de supposés besoins énergétiques. Voilà, l'article se conclut, bien, pour le conclure et le poursuivre, bien sûr... C'est évidemment la question des usages et de la sobriété. Bien sûr, il ne s'agit pas de développer la capacité des énergies renouvelables, mais bien d'agir en premier sur le levier de la sobriété et d'interroger les usages et même de contraindre les usages. On en parlait tout à l'heure avec l'avion, contraindre les usages. Et évidemment pas dans un sens de la société capitaliste, de la possession individuelle de tout et n'importe quoi, de tous les premiers gadgets venus, mais la mutualisation intelligente des ressources, la coopération, évidemment tout ça est un autre système qui n'est pas consumériste et qui doit s'organiser et qui peut s'organiser à partir des principaux intéressés, à savoir d'une part les consommateurs, d'autre part les producteurs, et pour ce qui concerne les producteurs, dans leurs organisations syndicales, mais des organisations syndicales avec une ambition autre que celle de gérer finalement les revendications immédiates, mais bien des revendications de transformation sociale à partir justement des idées qui peuvent être développées et des propositions qui peuvent être développées en tant que producteur, de réorientation de la production, de réorganisation du travail. J'ai fini mon petit laïus. Et je vais clore cette page énergie-climat avec le communiqué, avec un communiqué alors du réseau Sortir du nucléaire. Ce communiqué est un petit peu daté. Je vais m'en passer. On va s'accorder une pause musicale. On peut pas traiter tous les sujets. On va s'accorder une bonne pause musicale et on revient pour la fin de l'émission. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
J'étais Midnight Cowboy dans les Bouches de Hanoï. J'étais si sexy, sexy, un chapeau funny, funny. Je trimbalais des paires de biches au Big Mish sur les beaches de Californie. J'étais fou, j'étais jeune, toujours glossy. Toujours le gling, la déglingue. Le sexe des lunes et lingue, dingue. Dingue. Désormais, je suis pas sur la banquise. À perte de vue, mon iceberg agonise. J'étais peint parasol sur la rivière. Silhouette antique, so chic, sur la corniche, so rich. Je matais les yachts, les gros cabriolets. Je pêchais du strass dans les rivières, des balconnets. J'en foutais pas une rame, je faisais juste de l'ombre aux transactions salaces, des pornos fadas, du cousin des Bahamas. phoque sur la banquise. À perte de vue, mon iceberg agonise. J'étais rébellion dans la savane. Les gazelles en pinçaient pour moi. Oh mon grand fauve, oh mon roi, sauvage et brutal, plein de muscles, de cicatrices et de poils. Je concevais des sociétés secrètes, je planifiais les crimes jusqu'à Tamanra 7. J'organisais des rodéos de pandas à Bornéo. Désormais, je suffoque sur la banque. M'était berger allemande, je planais sévère sur la cordillère, je piquais droit sur mes proies en écoutant Wagner, mon ombre en géant sur la terre, j'avais un œil de lynx, je posais comme un sphinx, je ne manquais pas d'air, je ne manquais pas d'air. Désormais, je suffoque sur la banquise. À perte de vue, mon iceberg agonise.
Je t'envoie une postcard maintenant. Il est plutôt rapide et le présent est coupant. Ici, le soleil lâche la banquise.
Voilà, c'était le groupe Tanger qui interprétait Sur la banquise. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeterres, une émission en direct. Et nous abordons les 12 dernières minutes de l'émission. Alors ça y est, j'ai remis la main sur le bon communiqué au sujet du nucléaire, un communiqué du 17 juillet de sortir du nucléaire. Pas seulement d'ailleurs, puisque 24 collectifs et associations antinucléaires s'opposent à de futurs travaux d'EPR dites de deuxième génération. En effet, donc si on récapitule, le 29 juin 2023, EDF a annoncé engager les procédures d'autorisation nécessaires au lancement de la construction d'une première paire de réacteurs EPR deuxième génération à Penly, et que d'autres suivront à Gravelines, au Bugey ou au Tricastin. La loi d'accélération du nucléaire, qui a été promulguée le 23 juin, prétend aplanir toutes les difficultés administratives devant le rouleau compresseur d'EDF. En posant cette première pierre administrative, l'entreprise cherche maintenant à nous mettre au pied du mur d'un projet aux fondations toujours aussi dangereusement fragiles. La technologie des réacteurs nucléaires de deuxième génération, donc EPR, est sensiblement la même que celle des réacteurs EPR. Or, ceux-ci présentent de nombreuses défaillances, dont la prise en compte par EDF pour ses futures constructions est plus qu'incertaine. Le 28 juin 2023, le Canard enchaîné révélait que l'EPR de Taishan en Chine donc, est de nouveau à l'arrêt, et ce depuis le 1er février. En cause, les gaines de combustible contenant des pastilles d'uranium sont détériorées et menacent la sécurité du réacteur. Après un silence éloquent, EDF a fini par s'exprimer sur le sujet. Mais à ce jour, elle n'a pas fait la preuve de la prise en compte de ses expériences pour de futures constructions. Dans ses réponses aux recommandations de la Commission particulière du débat public, CPDP, publiée également le 28 juin, EDF justifie le niveau de sûreté des EPR de deuxième génération en s'appuyant sur une expertise qui ne fait pas mention des expériences internationales. Quant à l'EPR de Flamanville, il n'est évidemment pas possible de tirer un retour d'expérience de son fonctionnement puisqu'il ne fonctionne toujours pas. Le retour d'expérience sur sa construction est quant à lui catastrophique. Et alors que pour EDF le problème est d'ordre organisationnel, les défaillances sont pour nous d'ordre structurel et pourraient bien se reproduire à l'avenir. En ce qui concerne le coût des futurs EPR de deuxième génération, EDF n'essaye même pas de faire bonne figure et assume l'incertitude et la possibilité qu'il soit pris en charge par le contribuable. Mais rassurez-vous, le public sera informé quand tout ceci aura été défini. Or, comment être rassuré alors que l'évolution du prix du mégawattheure nucléaire à l'échelle nationale et internationale montre, si ce n'est l'envolée de celui-ci, du moins sa stagnation à un niveau élevé, alors que celui des énergies renouvelables dégringole d'année en année. EDF justifie son programme de construction avec le scénario N03 de l'étude Futur énergétique 2050 du réseau de transport d'électricité, donc RTE. Or, la Fondation pour la nature et l'homme a intégré les différents scénarios de RTE dans un rapport sorti en février 2023. Elle conclut qu'il est impossible de certifier qu'un scénario impliquant la relance du nucléaire soit moins coûteux que les autres, et surtout que de nombreux inconnus demeurent. Accès à des financements privés, durée de construction, qui impacteront au final le coût réel des EPR de deuxième génération. Le changement climatique est pris en compte dans l'étude d'impact environnemental du réacteur EPR deuxième génération et l'a même été avant selon EDF qui cite son projet ADAPT présenté le 18 avril 2023 à l'autorité de sûreté du nucléaire. Or, suite à celui-ci, la Cour des comptes avait pointé du doigt les études qu'il restait à mener, notamment en ce qui concernait les impacts des rejets thermiques sur l'écosystème aquatique, en particulier sur le long terme. Donc on l'a vu, hein, c'est les eaux de refroidissement qui sont souvent puisées dans les rivières et les fleuves. EDF a-t-elle eu le temps d'intégrer ses retours dans son étude d'impact? Si oui, pourquoi ne pas la publier? EDF semble plutôt vouloir adapter l'écosystème aux contraintes de fonctionnement des EPR. C'est, ouvrez les guillemets, à la suite de l'instruction de l'étude d'impact que des autorisations de prélèvement d'eau et rejet, notamment rejet thermique, sont accordées pour le fonctionnement normal de l'installation. Tout ceci fera par ailleurs l'objet d'un rapport à venir dans les conditions à définir. De quoi faire craindre le pire dans un futur au climat incertain. Donc là-dessus, je fais un commentaire. On voit que des demandes de dérogation, de rejeter des eaux plus chaudes, notamment dans les rivières et fleuves qui servent à refroidir le nucléaire, sont accordées. Et cela, évidemment, au détriment de la vie piscicole et plus globalement de la faune aquatique. Je reprends la fin de l'article. Des demandes d'autorisation ont été faites pour des travaux annexes au réacteur et nous savons que la filière nucléaire est coutumière d'engager des travaux pour mieux les justifier ensuite. Nous ne les laisserons pas nous mettre une nouvelle fois au pied du mur pour des dizaines d'années d'un programme nucléaire cher et déconnecté des enjeux actuels et futurs. La lutte antinucléaire continue et doit continuer. Et puis pour clore cette émission, je voulais le faire avec Novetic qui revient sur la problématique du recyclage des déchets plastiques et qui nous explique dans un article du 17 juillet pourquoi la France tourne en rond, puisqu'effectivement la France est en retard malgré des objectifs ambitieux portés notamment par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Le pays recycle à peine plus d'un cinquième de ses déchets plastiques. Les experts du secteur pointent du doigt des filières qui tardent à se structurer et une faible demande. Du côté des solutions, les débats se concentrent autour de la consigne au détriment de la réduction. Donc le taux d'emballage plastique recyclé en France est de 22% et c'est un chiffre encore loin des objectifs fixés. Qui a conduit la Commission européenne à publier le 8 juin dernier un rapport d'alerte sur la question. Dans le document partagé par Le Monde, les auteurs appellent l'Hexagone à intensifier considérablement ses efforts alors que certains de ses voisins européens affichent un taux de 57%, comme le font les champions autrichiens et hollandais. Car si la France ambitionne d'éliminer la pollution plastique d'ici 2040, pour l'instant, le recyclage se heurte à des limites et des obstacles techniques, sanitaires, économiques et structurels, observe l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je ne vais pas vous donner le sigle parce que ça fait mal à la tête. Également à l'origine d'une note publiée le 29 juin. Le pays qui s'était concentré jusqu'à récemment sur les filières les plus économiquement avantageuses a accumulé du retard. Il y a quelques années, le choix a été fait de démarrer avec les bouteilles et les flacons parce que c'était là qu'était la solution de recyclage, qu'on cède auprès de Novetic Jean Ornin, qui est directeur général de Citeo, qui est un éco-organisme créé par les entreprises de la grande consommation et de la distribution, pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages. Suivant l'extension de la consigne de tri généralisée depuis janvier 2023 qui permet de collecter dans un bac unique tous les emballages plastiques, de nombreuses filières doivent maintenant être créées et structurées pour répondre aux besoins du recyclage. Nous venons de signer pour qu'il y ait une création de ces filières à 2025, comme le prévoit la loi AGEC, dont on a parlé, précise Jean Ornin. Cela concerne 15% des emballages, comme les pots de yaourt composés d'un mélange de matières, les films ou les barquettes. Actuellement, on recycle 3 à 4% des pots de yaourt en Allemagne et en Espagne. On a une matière qui a une valeur assez faible. Le reste est incinéré dans l'industrie pour remplacer des combustibles fossiles, explique à Novetic Kakonait Ali, qui est docteur en chimie des matériaux. En attendant la mise en place de filières adéquates, ces emballages rejoignent les 20% d'emballages non recyclables qui, une fois triés, sont valorisés énergétiquement. Une pratique qui participe à la confusion des consommateurs, souvent peu au courant de la destination finale de leurs déchets. C'est le serpent qui se mord la queue. Pour avoir des filières, il faut collecter assez de déchets, mais comme elles n'existent pas encore, on les brûle, regrette Flore Berlingen, qui est autrice du livre « Recyclage, le grand enfumage » et qui a été interrogée par Novetic. À l'inverse de ce que voudrait la logique environnementale, on ne régule pas la mise sur le marché et on voit a posteriori ce que l'on peut faire avec la matière. On voit bien là hein, toute l'absurdité du circuit, hein. Je le précise, en tout cas ça me paraît vraiment net. La question on se pose une fois que le déchet est produit et pas avant sa production. À l'autre bout de la chaîne, il faut en effet que la demande émerge. En 2021, seulement 8% de la production plastique mondiale était issue du recyclage, rapporte l'organisme au nom imprononçable. Derrière ce chiffre très faible, plusieurs raisons sont invoquées, à commencer par l'argument économique. La raison la plus importante, c'est que les plastiques à recycler ne valent rien, souligne Flore Berlingen. Ils ne sont pas de qualité suffisante pour avoir vraiment une valeur sur le marché par rapport au coût de leur recyclage. Alors que le prix du plastique vierge reste encore très bas, l'incitation à utiliser des matières recyclées n'a que très récemment convaincu les industriels. Autre point bloquant, la diversité de matières et de couleurs des emballages. Quand on les mélange, on obtient du gris. Les applications sont très limitées, explique Kakonait Ali. Elle pointe également les freins sanitaires liés à certaines matières comme les films. Une fois recyclés, on ne peut pas les mettre au contact alimentaire. Seul le PET est aujourd'hui autorisé. Des obstacles que Citeo espère contourner en mobilisation des actions de recherche et développement et en pariant sur le recyclage chimique. Une méthode contestée pour son impact environnemental alors qu'elle attire de nombreux investissements. Il faut qu'il y ait des recycleurs pour reprendre la matière et en faire des applications pour le bâtiment ou l'automobile, mais nous, ce qu'on veut, c'est boucler la boucle en ayant des solutions de recyclage qui permettent de faire un retour à l'emballage, soutient Jean Ornin, donc, qui est directeur de Citeo. Pour combler le retard, plusieurs solutions sont mises sur la table, comme l'éco-conception. Alors que la loi AGEC prévoit une interdiction des emballages plastiques non recyclables d'ici 2025, les industriels vont être contraints de repenser la composition de leurs emballages, voire de supprimer les plus superflus. Un second levier réside dans la tarification incitative qui a déjà fait ses preuves en Belgique et en Suisse. Ce système où le consommateur paye selon la quantité de déchets jetés dans sa poubelle ménagère touche toutefois moins de 6 millions de Français pour le moment. Plus controversée, la consigne pour recyclage, notamment des bouteilles en plastique, a créé le débat ces dernières semaines. Encouragée d'un côté par la Commission européenne et les éco-organismes dont Citeo, certains experts craignent de l'autre une confusion chez les usagers. On double un système existant et efficace, le bac jaune, estime Kakonait Ali. Sur le plan économique, la consigne priverait les collectivités locales d'une source de revenus, les bouteilles étant le déchet qui a le plus de valeur. Le risque, c'est l'immobilisme. Ça ne sera pas un chemin tranquille, mais c'est nécessaire si on veut répondre à l'urgence écologique, fait valoir Jean Ornin, qui rappelle que la France devra atteindre 90% de taux de collecte des bouteilles en plastique d'ici 2030, contre 50% aujourd'hui. Reste la consigne pour réemploi, une solution pertinente, mais qui devrait viser tous les emballages pour réduire le jetable de manière générale, selon Kakonait Ali. car c'est bien là le nerf de la guerre sur lequel tous les spécialistes s'accordent. Le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. C'est l'éléphant dans la pièce en matière de déchets. On oublie que même si on atteignait des niveaux exceptionnels de recyclage, ce ne serait pas suffisant pour rendre soutenable notre consommation d'emballages jetables, conclut Flore Berlingen. Et voilà, ça conclut finalement dans le sens de la décroissance, évidemment, hein, de réduire et de limiter les usages plutôt que de les encourager. On a lu dans cet article que c'était facile et peu cher à produire. C'est bien là qu'est le problème, hein. C'est pas parce que c'est facile et peu cher, un peu onéreux à produire qu'il faut le produire. Évidemment, il n'y a pas d'éthique autre qu'utilitariste dans ce monde capitaliste, et c'est contre ça que nous devons lutter. Allez, sur la dernière minute qui nous reste, j'en profite pour souligner, vous inviter à un achat qui vaut le coup, parce que il y a de quoi passer du temps avec. C'est bien sûr le numéro d'été de la décroissance, hein, du mensuel. Alors là, c'est numéro juillet-août 2023 pour 6 euros, avec un dossier sur tout, notamment un dossier central, hein, puisque c'est un numéro double, sur toutes les actions, commençant par alors je vais en citer quelques-unes, hein, des consommations, des productions, des industrialisés, démondialisés, décélérés, démystifiés, déconditionnés, déconnectés, désertés, demeurés, déséconomicisés, désurbanisés, démilitarisés, désétatisés, déridés. Voilà, parce qu'on rigole quand même un petit peu. Beaucoup, beaucoup de choses à lire, des réflexions particulièrement intéressantes et qui sortent justement de cette logique de la quantité, hein, qui nous noie finalement, et qui aborde bien toutes les dimensions des enjeux écologiques et sociaux sur leur angle philosophique, organisationnel, éthique, moral. Voilà, je vous invite donc à acheter ce numéro extrêmement riche. Il y a moyen de s'enrichir sans voler personne. Voilà. Et on peut le faire en lisant. Allez, pour les mangeteurs, c'est fini. On se retrouve le premier lundi du mois de septembre. Et d'ici là, eh bien, écoutez, vous restez à l'écoute de Radio Libertaire et des émissions en direct. Il y en a un peu moins cet été, c'est vrai, mais il y en a quand même. Allez, on se quitte en musique et on se dit au mois prochain. Bye bye, à bientôt.